prenons un peu de hauteur avec tout ça. Et il sera question d'histoire avec vous, de l'histoire, n'est-ce pas?
Oui, Charline. Alors, quand on était petit, le mercredi, rappelez-vous, on adorait se déguiser. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais vous enfiliez un costume de Catwoman, je me souviens très bien. Meurice mettait un costume trois pièces et une montre à gousset, et donc il se déguisait en ce qu'il est, un gros, gros, gros bourgeois.
Et en ce qu'il est, H-I-N.
Voilà. Non, E-S-T, E-S-T. On vérifiera auprès de notre linguiste. Et Visorex, ça vous mettait en pétard, chouinait en réclamant, je cite, un costume d'Émile Louis. Or, la plupart des enfants normaux aiment se déguiser en quoi? En pirates. Et c'est là où ce formidable livre d'histoire va les intéresser. Pirates, corsaires et flibustiers, signé de l'historien Alain Blondy. Alors le pirate, il a une place énorme dans notre imaginaire. On pense Barbe Noire, on pense Jack Sparrow, on pense Jambes de Bois, on pense Bandeau sur l'œil, sourire cruel, quoique édenté. Mais la réalité est tout autre, nous explique Alain Blondy. Un jour, du paléolithique supérieur, l'homme, il a regardé la mer, non plus comme une source de peur, mais enfin comme un lien entre deux terres. Et ce regard a signé la naissance du marin. Il ne restait plus qu'à développer le commerce maritime. Et d'ailleurs, on peut suivre l'évolution des pirates sur tous les millénaires rien qu'en regardant les routes de commerce. Méditerranée dans l'Antiquité, mer nordique au Moyen-Âge et golfe de Guinée aujourd'hui, exportation pétrolière oblige. Alors bien sûr, au départ dans l'Antiquité, la mer est un espace sans loi, ouvert à tous les excès, un peu comme cette émission finalement. Et cette open bar des prédateurs donne naissance au nom pirate, qui vient du grec perao, qui signifie entreprendre. Alors pour faire très simple, en gros l'idée c'est de s'enrichir. Mais très vite, le pouvoir comprend qu'il aurait intérêt à composer avec ces brigands. Parce que les pirates, ils sont bien contents de pouvoir écouler leur butin sur les ports, et les ports, ils sont bien contents de vendre sur les marchés des denrées venues de loin. Donc on réprime mollement la violence des pirates. Et leur histoire sera toujours liée à celle du pouvoir. De ce point de vue, celui qui a tout compris tellement comme d'habitude, c'est le Moyen-Âge. Bah oui, pardon, mais lui, il dit aux pirates, bon, écoutez, vous êtes sanguinaires, on a compris, alors travaillez pour moi. Vous faites la même chose, mais contre les ennemis. Ah, malin. Or, à l'époque, les ennemis, ça ne manque pas. Autorisation est donc donnée à ces pirates de courser les navires ennemis, d'où le nom de corsaire, qui vient de course. Attaquer un bateau, eh ben oui. Attaquer un bateau s'inscrit donc alors dans le cadre de la loi de la guerre, et les corsaires sont considérés comme une armée navale des pirates d'État, dit Alain Blondy. C'est seulement en 1856 que la France abandonne vraiment ce principe du raid maritime comme service public, en fait. Ironie du sort, bah oui, mais ironie du sort, 1856, c'est aussi l'année de la mort du dernier corsaire français, Étienne Pellot, surnommé le renard basque, car oui, et oui, le petit monde des bandits aime les surnoms. Un exemple que j'adore, la tigresse bretonne, ou la lionne sanglante, c'était le surnom de Jeanne de Belleville, née en 1300, encore le Moyen-Âge. Alors, elle n'était pas du tout bretonne, elle était poitevine, mais surtout, c'est comme ça, elle était aristocrate, cœur sur elle. Or, elle a très mal pris la décapitation de son mari par le roi Philippe VI, qui en plus l'a bannit. Donc Jeanne a été énervée. Donc elle a donc armé deux vaisseaux et elle a mis une énorme raclée à la flotte française. Ça, je l'ai souvent dit, il ne faut pas embêter les duchesses. Je vous redonne les références. Pirates, corsaires et flibustiers d'Alain Blondy est paru chez Perrin.
Merci Clara Dupont-Mono, quelle bonne idée.
France Inter.